Nous allons commencer par la chronique In Code We Trust de Noémie Berger, que j'ai plaisir à retrouver au studio. Donc Noémie, tu es avocate au cabinet d'une et tu nous proposes aujourd'hui une chronique intitulée Code du travail et code de la propriété intellectuelle, on décode les règles. Bonjour Noémie, je te laisse la parole.
Bonjour Étienne, bonjour à toutes, bonjour à tous. La chronique de ce jour porte sur les créations logicielles des salariés. C'est un vaste sujet, puisqu'effectivement, le salariat est lui aussi directement concerné par la création. Et on va s'intéresser ici plus spécifiquement aux logiciels. Donc les logiciels sont des œuvres de l'esprit, ils sont définis comme tels dans le code de la propriété intellectuelle, et on va voir au travers de cette chronique que il faut donc considérer le salarié comme soumis au code du travail, mais aussi, on va le voir, il se voit appliquer un certain nombre de règles du code de la propriété intellectuelle, et on va essayer ici d'en décoder les règles. Je rappellerai que le salarié, lorsqu'il est créateur, il est lui-même auteur et à ce titre, conformément au code de la propriété intellectuelle, il va donc avoir des droits qu'on appelle patrimoniaux et des droits qu'on appelle moraux. Les droits patrimoniaux vont être des droits d'exploitation et les droits moraux sont des droits qui sont vraiment attachés à sa personne. Et donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que le code de la propriété intellectuelle prévoit que chaque auteur qui détient ses droits est en principe libre évidemment de les exploiter. Or, ce qu'il faut retenir pour le salariat, c'est qu'il y a une règle qui est assez dérogatoire de ce qu'on connaît dans le code de la propriété intellectuelle, qui est prévue à l'article L113-9 et qui prévoit que pour les salariés auteurs de logiciels, eh bien, les droits patrimoniaux sont dévolus directement à l'employeur. On a un article qui nous dit que donc, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation, c'est important de le préciser, qui sont créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur, sont dévolus à leur employeur qui est seul habilité à les exercer. Donc ce qui signifie que l'auteur salarié d'un logiciel et de la documentation qui est associée, soumis au code de la propriété intellectuelle, voit ses droits patrimoniaux dévolus directement à l'employeur. Les droits moraux sont, eux, en revanche, conservé par l'auteur salarié, là-dessus il n'y a pas de spécificité, si ce n'est qu'il faut quand même savoir que si l'auteur salarié va exercer ses droits moraux, il ne peut pas abuser de ses droits et ne pourrait pas par exemple essayer de contourner l'exercice des droits patrimoniaux par l'employeur en utilisant ses droits moraux. On a quelques cas dans la jurisprudence où on s'est rendu compte que ce n'était pas... que les juridictions n'autorisaient pas en fait l'utilisation des droits moraux pour contourner l'interdiction d'utiliser les droits patrimoniaux. En d'autres termes, il faut aussi retenir que s'agissant des salariés, évidemment, ce sont ceux qui sont liés à un contrat de travail avec leur employeur. Alors souvent se pose la question en pratique des stagiaires, parce que c'est vrai que dans la majorité des entreprises, on a aussi des stagiaires. Ce qu'on aperçoit dans la pratique, c'est que les stagiaires sont quant à eux unis, liés avec une société, une entreprise, avec une convention de stage, par une convention de stage. Et dans cette convention de stage, on peut retrouver certaines clauses qui viennent préciser des conditions de cession de droit, parce que là, en fait, comme on sort du régime lié aux salariés, on doit retrouver une clause de cession de droit qui est le principe dans le code de la propriété intellectuelle, c'est que tout auteur qui veut faire exploiter ses droits par l'intermédiaire d'un tiers doit les faire céder. Et c'est ce qu'on retrouve dans les conventions de stage. Alors, c'est vrai que parfois, on est vraiment confronté à une difficulté d'interprétation de ces clauses qui sont pas toujours très, enfin en tout cas qui sont pas forcément très adaptées à l'activité de la société dans laquelle le stagiaire intervient. Et donc ça nous amène à souvent nous interroger sur les conditions de la validité d'une telle clause. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour les salariés la règle est assez différente. C'est parce que à l'époque, avant 1985 et avant l'intégration de cet article L113-9, il fallait prévoir une clause de cession de droit quand on était salarié, qu'on travaillait dans une entreprise et qu'on créait des logiciels. Donc ça impliquait évidemment d'avoir des clauses de cession de droit très, très précises. Ici, on peut se poser la question, est-ce que le fait que le code de la propriété intellectuelle prévoit une cession automatique, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'en tant qu'employeur, on peut se passer finalement dans le contrat de travail de prévoir une clause de cession de droit également? Ce qu'on voit dans les faits, c'est que les employeurs intègre toujours de manière systématique une clause aussi de cession de droit sur les logiciels qui sont créés par leurs salariés, parce que ça permet de clarifier d'une part l'intervention du salarié, puisque pour que la cession automatique s'applique, il faut que ce soit dans le cadre du travail, c'est-à-dire que le salarié va créer les logiciels dans le cadre de son temps de travail et aussi que ce soit dans le cadre de son activité normale. Exemple, on va prendre un comptable qui développe un logiciel. Son activité en tant que comptable, c'est évidemment de faire la comptabilité. En revanche, c'est vrai que s'il s'intéresse au développement et qu'il crée un logiciel, on peut se poser la question, est-ce que le fait de l'avoir créé sur son temps de travail, est-ce que c'est de nature à rendre immédiatement la cession automatique des droits auprès de l'employeur, ou est-ce qu'on va considérer qu'il est lui-même titulaire de ses droits patrimoniaux. C'était posé d'ailleurs une question qui était, est-ce que le salarié qui utilise les moyens qui sont mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail pour créer des logiciels en dehors de son temps de travail, est-ce que ça va du coup s'intégrer dans la cession automatique? Eh bien là aussi, a priori, la jurisprudence a tranché et le fait d'utiliser les moyens qui sont mis à disposition par l'employeur, dans certains cas, ça a été jugé comme étant remplissant la condition de l'article L113-9 et donc il y avait une cession automatique auprès de l'employeur. Donc c'est vrai que ces sujets aujourd'hui ils sont quand même assez courants. On retrouve aussi une question par rapport à la rémunération, parce que c'est vrai qu'en tant que salarié, dans le contrat de travail, si on a une clause de cession de droit, ou en tout cas une clause qui finalement rappelle les dispositions de l'article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle, on va aussi se poser la question de savoir si les créations sont rémunérées par le biais de la rémunération que perçoit habituellement le salarié, ou est-ce que c'est une rémunération proportionnelle. Alors c'est vrai que dans le Code de la propriété intellectuelle, on a vraiment pour les logiciels une exception au principe de la proportionnalité pour la rémunération, et on peut donc verser une rémunération forfaitaire. La clause justement dans le contrat de travail va venir un petit peu préciser le contexte de la création et de la rémunération qui est faite aux salariés. C'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, il y a quand même des points qui sont négociables entre le salarié et l'employeur. Et se pose aussi alors la question des logiciels libres, puisque en tant que salarié auteur, eh bien, il peut être amené à contribuer au développement de logiciels libres, voire même à utiliser des logiciels libres. Et donc là, on voit dans la pratique, dans les sociétés où on va promouvoir les licences libres, les logiciels libres, que sont signés entre le salarié et l'employeur ce qu'on appelle des contributor agreements, qui permettent un petit peu de clarifier les conditions de travail du salarié et comment il va participer aussi aux différents développements. Se pose aussi la question de savoir qui va pouvoir choisir la licence libre. Et c'est vrai que là, dans la majorité des cas, on voit quand même que c'est l'employeur qui va choisir les modes de distribution. Ce qui est intéressant, c'est que pour les logiciels libres, il y a vraiment la possibilité d'avoir un débat et une discussion pour déterminer d'un commun accord ce qui est finalement la licence qui serait la plus adaptée. Donc là encore, sur ce type de secteur, on est vraiment sur de la négociation contractuelle. Alors, il peut arriver de temps en temps qu'il y ait des différends, évidemment, des différends qui portent sur des contestations par rapport justement à ces droits qui sont ceux du salarié, qui sont dévolus à l'employeur. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est que, et c'est un peu une vraie dérogation au Code du travail, c'est qu'en principe, évidemment, toute difficulté qui intervient dans le cadre du contrat de travail est soumise au conseil de prud'homme, si ce n'est qu'ici, en fait, comme on est sur de la propriété intellectuelle, le Code de la propriété intellectuelle a prévu une dérogation et il prévoit que toute contestation qui sont fixées, enfin qui sont en lien avec l'article L113-9, seront portées devant le tribunal judiciaire du siège social de l'employeur. Et donc, ce seront des juges qui sont formés à la propriété intellectuelle, qui seront amenés à trancher ces questions, ce qui est quand même assez adapté parce que c'est quand même des sujets qui sont très spécifiques et souvent ces juges-là vont être amenés à la fois à interpréter les articles du Code de la propriété intellectuelle, mais également à interpréter aussi des clauses qu'on peut retrouver dans les contrats de travail, voire même parfois des conventions collectives. Et donc c'est vrai que c'est quand même important d'avoir une bonne connaissance du secteur. Et donc voilà pour ces sujets qui sont quand même assez courants dans notre activité au quotidien, puisque c'est vrai qu'on est soit amené à travailler et donc à avoir un contrat de travail, et c'est important de connaître un petit peu les droits dont on dispose et qui sont prévus par le législateur. Voilà, j'en aurais terminé de cette chronique et j'étais ravie de vous retrouver.
Bah pareil, merci beaucoup Noémie. Et effectivement, je pense que ta chronique sera disponible en podcast d'ici quelques jours et je pense qu'elle pourrait être utile effectivement pour pas mal de salariés qui se posent leur question de quels sont leurs droits. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'effectivement le logiciel libre apporte un niveau de réflexion différent et peut-être que le rapport de subordination se joue différemment justement puisque c'est du logiciel libre, les droits patrimoniaux appartiennent à personne et à tout le monde en même temps, quelque part.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une vraie discussion. En tout cas, ça crée la discussion et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est un vrai parallèle avec la propriété intellectuelle.
Super. Bah, merci beaucoup et je te dis au mois suivant.
Avec plaisir.
Ça marche. Merci beaucoup, Noémie.